Nous allons commencer cette session qui est consacrée au retour des politiques industrielles. Je vais brièvement introduire cette session et ensuite vous expliquer comment nous allons travailler ce soir. Pourquoi est-ce que nous sommes posés cette question des politiques industrielles? Parce que, comme vous savez, comme beaucoup de grands pays de l'OCDE, la France est un pays qui s'est considérablement désindustrialisé. Comme vous le savez, l'emploi industriel en France représente maintenant à peu près 12% de l'emploi. C'est la moitié moins qu'en Allemagne ou en Suède, par exemple. Et donc, ceci est un véritable problème, aussi un problème de croissance et de déficit. Les effets néfastes de cette situation sont bien connus. Perte de croissance à long terme, je le disais, déficit extérieur, inégalité de revenus. Les emplois industriels sont des emplois plutôt bien payés, et bien sûr qui nous manquent. Ceci vient d'un certain nombre de facteurs qui commencent à être bien identifiés, qui vont être repris par les différentes personnes qui sont autour de cette table ce soir. Des facteurs qui sont plutôt institutionnels, pas tellement macroéconomiques, qui sont liés aux relations des entreprises entre elles, entre les grandes et les petites entreprises, aux problèmes d'embauche, d'éducation, au rôle de l'État. Vous savez que nous sommes dans un pays qui a la particularité de faire disparaître ses PME. Les PME de plus de 250 salariés sont absorbées par les grands groupes et disparaissent dans des proportions invraisemblables, puisque plus de 16% des PME de plus de 250 salariés, tous les ans, sont absorbées par un grand groupe et perdent leur identité de PME et ont l'air de perdre leur dynamisme dans le grand groupe. La démondialisation que certains argumentent de mon point de vue, et je crois qu'on y reviendra aussi ce soir, n'est pas une réponse, puisque nous sommes en face d'une situation qui ne touche pas d'ailleurs d'autres pays européens comme l'Allemagne, et d'une situation très particulière où les entreprises ont segmenté leur processus de production pour les implanter là où elles trouvaient le plus efficace de produire. Et donc on ne peut pas se protéger contre ceci. On ne peut pas se protéger en se protégeant, on peut se protéger en redevenant un pays attractif et industriel. Alors, quelles sont les réponses? Bien entendu, c'est ici que toutes les personnes qui sont autour de moi et que je vais vous présenter, c'est ici que nous les attendons et que nous voulons les interroger. Ce sont évidemment des réponses coopératives. Je crois que quand on regarde l'Allemagne, par exemple, on s'aperçoit que c'est un pays qui pratique de façon intense la coopération entre les grandes entreprises et les petites entreprises, entre la recherche et les entreprises, entre les régions et les entreprises. Et bien sûr, ceci doit quelque chose que nous, les universités, les entreprises, et c'est quelque chose qui pourrait être, sans doute dans le modèle allemand, qui n'a pas que des côtés sympathiques, pourrait nous inspirer. On regrette depuis très longtemps, vous savez, entre économistes français, qu'il n'y ait pas en France ou en Europe l'équivalent du Small Business Act aux États-Unis, quelque chose qui donne un certain avantage aux PME, par exemple pour l'obtention des contrats publics. Il y a évidemment des problèmes de formation. Il y a de moins en moins de jeunes qui vont dans des formations scientifiques, ce qui pose des problèmes de recrutement aux entreprises industrielles. Il y a un problème d'acceptabilité sociale de la réindustrialisation. On n'aime pas tellement l'industrie en France. Hein. C'est conçu comme une activité polluante, désagréable, qui fume et qui émet du CO2. Donc, est-ce que nous devons recréer une acceptabilité sociale de l'industrie? Donc, tout ceci, bien sûr, va être évoqué autour de moi. Et aussi, bien sûr, que les problèmes de financement des entreprises et des entreprises en croissance. Autre question, bien sûr, importante, c'est qu'est-ce que ça veut dire réindustrialiser? Ça ne veut probablement pas dire faire revenir des industries qui sont parties, c'est probablement développer de nouvelles industries, d'abord sur des marchés intérieurs porteurs, comme savent très bien le faire des pays à nouveau, comme l'Allemagne, comme la Suède, comme le Danemark, comme la Suisse, dans le domaine des énergies renouvelables. Et enfin, et je sais que Gérard Collomb veut en parler tout à l'heure, quel est le bon niveau pour faire cela? Est-ce que la réindustrialisation, c'est quelque chose qui se fait au niveau européen, au niveau de l'État, au niveau des grandes collectivités locales, des grandes agglomérations? Les exemples étrangers nous disent que les succès sont plutôt régionaux, on a l'impression. Regardez la Bavière, Rhône-Alpes, la Lombardie-Vénétie. On a l'impression que c'est le niveau provincial, régional, qui paraît le plus adapté pour mener ces politiques. Donc nous allons être organisés de la façon suivante. Je vous présenterai tous les participants à la table ronde après. Nous allons d'abord écouter François Barouin, qui a eu la gentillesse de venir de Paris spécialement pour nous ce soir, nous dire quelle est sa vue des nouvelles politiques industrielles et qu'est-ce que ceci peut recouvrir. Puis je reprendrai 5 secondes de la parole pour vous présenter les intervenants et les sujets qu'ils aborderont. Et J'ai déjà dit à tous les intervenants, par pitié, 4 ou 5 minutes, nous voulons avoir une heure de débat avec vous. François Baroin doit partir à 19h40, donc je dirigerai d'abord les questions vers le ministre, et puis Laurence Parisot doit partir, je crois, vers 20h, donc je dirigerai après les questions vers Laurence Parisot. Et ensuite, vous pourrez attaquer les économistes restants avec les forces qui vous resteront. Merci beaucoup, monsieur le ministre, je vous en prie.
Si ça marche. Mais cher Patrick Artus, monsieur le maire, pardon, d'abord je voudrais vous saluer, vous remercier pour votre accueil, vous saluer toutes et tous, saluer tous les grands économistes ici présents et vous remercier pour votre invitation. Je parlerai un peu politique industrielle, mais je voulais profiter de l'occasion devant parterre de jeunes et de représentants du milieu économique, mettre en perspective un peu les éléments de contexte des différents accords européens et internationaux qui sont intervenus au cours de ces 10 jours. Les conséquences pour notre pays en termes de mesures gouvernementales, et puis profiter de l'occasion dans le cadre des questions pour répondre à quelques-unes d'entre vous. Peut-être déjà un mot sur la situation dans la zone euro et la manière dont nous avons à gérer l'impact de l'instabilité de la zone euro actuellement. Il y a depuis... au fond, depuis l'été, une addition de paramètres et d'indicateurs qui sont en train d'assombrir le tableau économique et qui produisent un ralentissement aux États-Unis, les difficultés entre l'administration Obama et le Congrès américain pour trouver les modalités d'un accord pour le relèvement du plafond de la dette ont créé des conditions qui ont entraîné la dégradation de la note américaine. Cela a créé évidemment un élément d'incertitude. Et puis il y a eu comme conséquence des interrogations sur les économies émergentes et naturellement une situation dans la zone euro qui a du mal à trouver sa stabilité. Pourquoi ? La première cause de tout cela, c'est pas tellement telle ou telle politique à l'intérieur de tel ou tel pays. La question grecque n'est pas la même que la question irlandaise, n'est pas la même que la question portugaise. Les problèmes en Espagne ne sont pas de la même nature que ceux qu'on rencontre en Italie. Et les difficultés rencontrées par d'autres pays répondent également à d'autres critères, d'autres exigences, d'autres ressorts. Mais il y a un point commun, un seul, unique, c'est que l'ensemble de ces économies avancées ont financé des politiques publiques à crédit. Et c'est ce niveau d'accumulation de déficits qui ont constitué un stock de dettes qui aujourd'hui fait qu'il existe dans l'esprit des marchés quelque chose qui était inenvisageable il n'y a ne serait-ce que 3 ans, c'est-à-dire le doute sur ce qu'on appelle le risque souverain, le doute sur la signature d'un État, le doute sur des obligations émises par des États qui sont structurés avec des économies développées. Et tout ce que nous mettons en place au niveau de la zone euro, c'est d'essayer de faire sortir ce doute des marchés qu'il y a un risque de faillite d'un État, d'un effondrement d'une économie et donc d'un entraînement dans une zone monétaire qui n'est pas optimale, c'est incontestable, qui est la zone euro et qui nécessite de procéder à des ajustements et à des politiques de consolidation budgétaire. C'est naturellement le cas de la Grèce. Nous passons sur l'histoire, vous la connaissez, sur la présentation des chiffres, sur le degré d'intégration au départ, sur les modalités de cette intégration, sur l'évolution du suivi des chiffres qui avaient été donnés par les Grecs. Le constat est là et nous avons à gérer cette situation, une situation où, au fond, les Grecs n'ont pas d'autre solution que d'accompagner les éléments de l'accord du 27 octobre, c'est-à-dire une politique de consolidation, une politique de réforme structurelle, une politique de privatisation, une politique d'effort partagé pour sauver, d'une part, à terme, naturellement, l'élément de croissance absolument nécessaire et pour retrouver une souveraineté totale et absolue. On voit bien aujourd'hui qu'un pays qui est endetté est un pays qui perd sa souveraineté puisqu'il dépend soit des marchés, soit de ses créanciers, souvent des deux. Et c'est la raison pour laquelle il était difficile d'imaginer une question référendaire posée en Grèce sur l'unique question pour ou contre le plan. La seule question qui était à poser aux Grecs, c'était de savoir s'ils voulaient ou non rester à l'intérieur de la zone euro. Et c'est autour de cela que les chefs d'État de la zone euro, principalement la chancelière allemande et le président français, ont proposé au gouvernement grec d'organiser cette consultation référendaire. Il a fallu avancer sur ce chemin, il a fallu organiser des dispositifs d'accompagnement et il a fallu méthodiquement lister les points sur lesquels nous souhaitons mettre en place une cohérence pour arriver à la stabilité de la zone euro. La question grecque, je ne reviens pas dans les détails du plan de l'accord du 27 octobre, c'est tout le plan, rien que le plan, Et il est heureux de voir depuis quelques jours un gouvernement d'union nationale se dessiner. Le fait politique est aujourd'hui un élément constitutif du regard que les agences de notation ou les marchés peuvent porter sur la crédibilité et sur le sérieux de tel ou tel gouvernement lorsqu'il dit « je vais faire telle ou telle réforme ». Deuxième élément de cet accord européen, c'est la nécessité de mettre en place ce qu'on appelle un pare-feu pour éviter la contagion, notamment à l'Italie. Ce fonds européen va s'appuyer sur soit des mesures d'effet de levier, trouver des partenaires qui vont permettre d'optimiser ce fonds. Il n'est pas question pour l'Allemagne et pour la France d'augmenter les réserves de ce fonds. Il est question pour les dirigeants de ce fonds de trouver des partenaires pour avoir un effet de levier, dispositions qui permettent de mieux protéger et d'accompagner les pays en difficulté, en gros d'aider à reconquérir la confiance ou la crédibilité des marchés sur l'achat, notamment des titres d'obligation d'État en Europe. Nous pensons évidemment aux pays sous programme, nous pensons aux pays actuellement sous tension sur les marchés des dettes d'État et notamment l'Italie. Je précise au passage qu'il y a eu un débat que pour ma part j'ai trouvé curieux sur la question chinoise dans cette affaire du fonds européen. Je me permets de rappeler que la Chine est membre et partie prenante des discussions de l'Organisation mondiale du commerce depuis 10 ans, qu'au début de l'année prochaine, la Chine sera le 3e actionnaire du Fonds monétaire international, que c'est le pays qui, avec ses 3 200 milliards de dollars de réserves, a un intérêt à investir là où elle considère qu'elle pourra avoir un retour sur investissement et où elle maintient sa confiance, qu'elle est déjà évidemment un investisseur important de la zone euro, et nous avons besoin naturellement des puissances émergentes, et nous avons besoin de la confiance des grandes puissances émergentes comme la Chine pour continuer d'investir en Europe. Ils l'ont fait aux États-Unis, ils le font en Europe, et ils le feront à travers ce fonds européen sans échange, sans discussion sous le tapis, sans discussion derrière le rideau. Il n'y aura pas de troc, il y aura la poursuite de la confiance. Et donc il faut vraiment tordre le cou à ces idées reçues sur lesquelles il y aurait eu des négociations masquées ou cachées avec les Chinois. Il n'y en a eu aucune. Nous avons et nous souhaitons continuer de bénéficier de la confiance des investisseurs chinois et d'autres pour stabiliser la zone euro. Troisième élément, nous devons tenir compte évidemment de ces crises à répétition et on ne peut pas continuer de vivre comme cela avec des hoquets et des bégaiements systématiques avec une ruse de l'histoire autour de l'instabilité de la zone euro. Et c'est la raison pour laquelle la modification de la gouvernance de la zone euro est désormais un impératif incontournable. Certains parlent d'une gouvernance de nature fédérale pour les 17. Et c'est quelqu'un qui a inscrit son parcours politique dans la filiation gaulliste qui vous le dit, ça ne me choque pas. Il est incontestable qu'ayant inversé l'ordre des facteurs pour la création de la zone euro, nous devons aujourd'hui remettre l'ensemble des dispositifs au bon endroit. Au bon endroit, ça veut dire une convergence fiscale, une convergence budgétaire, une coordination des politiques économiques, une coordination du calendrier des politiques de consolidation budgétaire. Il n'y a pas d'autre avenir que de renforcer la convergence à l'intérieur des 17 membres de la zone euro, ce qui permettra à l'intérieur des 27 de travailler dans une organisation de nature plus confédérale. C'est le sens du chemin qui sera pris. Ça prendra du temps, ça passera certainement par des modifications de traité. Il y aura certainement des débats d'importance sur ce sujet, mais l'une des grandes leçons de toutes ces crises à répétition, essentiellement depuis la question grecque, c'est qu'il faut moderniser en profondeur la gouvernance de la zone euro. Il faut donc plus intégrer, plus organiser et accepter la surveillance de nos partenaires, surveillance mutuelle, pour que chacun avance d'un même pas. Voilà pour les éléments de l'accord européen. Il y a eu la semaine dernière le G20 à Cannes, sous présidence française, qui a obtenu des avancées, des percées diplomatiques significatives sur des sujets qui font l'objet aussi de travaux et de discussions et sur lesquels, naturellement, nous serons amenés à poursuivre notre implication et nos engagements économiques. Première avancée, la coordination de l'ensemble des pays pour stabiliser la croissance, favoriser son rebond, déjà dans un premier temps éviter un ralentissement trop puissant. Les pays qui sont en situation d'excédent ont accepté, par un engagement institutionnel, de contribuer en tant que de besoin en fonction de l'évolution économique internationale, de participer à une politique de relance de la demande. C'est le cas des Chinois, c'est le cas des Australiens, c'est le cas des Canadiens, c'est le cas d'autres pays qui sont dans cette situation et qui se sont engagés sur cette partie-là. Et de l'autre, les pays qui ont besoin de réduire leur déficit, qui ont besoin de poursuivre cette consolidation budgétaire, ont aligné un certain nombre de mesures pour rendre cohérents les plans qu'ils ont annoncés. Donc, vous voyez bien que contrairement aux autres rendez-vous internationaux qu'il y a eu par le passé, il n'y a pas soit d'un côté une ligne, on met le pied sur le frein de la dépense publique et on pratique une politique de réduction des déficits drastique, ou de l'autre, on soutient la relance, on fait jouer les amortisseurs sociaux et en quelque sorte on aggrave les déficits. On n'est pas dans ce schéma-là, on a trouvé le point d'équilibre, les pays qui le peuvent contribueront à la relance de l'activité économique. Les pays qui le doivent seront dans l'obligation de poursuivre leur politique de consolidation budgétaire. Nous avons eu des avancées également importantes sur le plan de la régulation des marchés nets des matières premières, sur le plan de la publication désormais obligatoire de 29 établissements systémiques sur le plan international qui ont donc des obligations de transparence complémentaires. Il y a eu des avancées également, tout ça est passé assez inaperçu. On n'a parlé que du référendum grec, que de Papandréou, que du rendez-vous avec Merkel et le président Sarkozy. Tout le reste est malheureusement passé à la trappe, et donc je profite de cette occasion bienveillante pour vous le dire. Il y a eu des avancées significatives sur la publication et la lutte contre les paradis fiscaux. 11 pays ont été nommément désignés, ce qui n'était pas évident. Et il y aura là aussi une lutte qui se poursuivra contre l'organisation dans un certain nombre d'États de l'évasion fiscale qui favorise évidemment une altération en profondeur de la qualité du regard que les populations peuvent avoir vis-à-vis des politiques publiques coordonnées sur le plan international conduites. Nous avons besoin que tout le monde joue les mêmes règles du jeu, s'appuie sur les mêmes fondamentaux et parle en réalité la même langue budgétaire, économique et fiscale. Il y a eu des avancées, je parle sous le contrôle de Laurence Parisot, dans la coordination des milieux économiques aux côtés des politiques publiques, et je veux mettre en lumière que pour la première fois dans un G20, on a parlé des questions agricoles, on a parlé des questions de développement, on a parlé des questions de sécurité alimentaire, on a parlé des questions d'emploi. Et on a parlé des questions de coordination entre la puissance publique d'une part et les acteurs privés d'autre part. C'était donc un sommet de ce point de vue qui aura mis en lumière des avancées très significatives sur le plan de la coordination internationale pour essayer de régler la crise. Les conséquences pour notre pays, vous les connaissez. Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures qualifiées de rigueur ou d'austérité, peu importe le mot. Ce qui compte, c'est que vous reteniez une seule idée simple, la colonne vertébrale de toutes les actions du gouvernement sur le plan économique, budgétaire ou fiscal, c'est d'être au rendez-vous des objectifs intangibles en matière de réduction de déficit public. Nous ne pouvons plus vivre au-dessus de nos moyens. Nous ne pouvons plus accepter de financer une politique sociale ou des politiques publiques à crédit. Nous ne pouvons plus accepter de faire porter sur les épaules des jeunes générations ici présentes une responsabilité d'un confort de vie pour la génération des parents ou des grands-parents. C'est ça le monde nouveau qui est en train de s'écrire devant nous. Nous sommes les contemporains d'un changement d'époque considérable et d'un changement de doctrine et d'un changement d'organisation et d'un changement de regard, de matrice en quelque sorte, par rapport à des habitudes puissantes. Ça ne va pas être facile. C'est un peu comme un pétrolier qui doit arriver au port et il lui faut plusieurs centaines de mètres pour amorcer son virage. Là, on n'a pas le choix. C'est un pétrolier. Le port n'est pas loin, mais il faut accélérer, amorcer le virage et donc essayer de faire quelque chose qui, malgré tout, nous permettra de stabiliser l'ensemble. Les conséquences sont des mesures équilibrées entre l'effort de dépenses et l'effort de recettes. Sont des mesures équitables entre ce que nous allons demander à celles et ceux qui ont le plus de moyens et puis naturellement protéger les publics les plus fragiles. Les conséquences également, ce sera de protéger un modèle social qui est évidemment très protecteur, un État-providence qui assure la solidarité entre les générations, pour les familles, en termes de santé, en termes de politique de santé publique vis-à-vis des plus fragiles, les handicapés, et de protéger évidemment les retraites de celles et ceux qui étaient en activité ou qui le seront encore pendant quelques années avant de sortir du marché du travail. C'est l'ensemble de l'addition de cette stratégie portant sur des réformes de structure, je pense aux réformes de retraite, je pense aux réformes portant sur la révision générale des politiques publiques, le 1 sur 2. Je pense naturellement à la poursuite des efforts en matière fiscale. C'est l'ensemble de cette stratégie que nous allons poursuivre et développer. Ça nécessite de la réactivité, ça nécessite de la responsabilité, ça nécessite de l'adaptation et ça nécessite de la coordination pour atteindre ces objectifs. Nous ne dévierons pas d'un millimètre par rapport à ces objectifs de déficit. Nous devrons être en 2013 au niveau de déficit que nous avions avant la crise de 2008-2009 et nous devrons être en 2016 à zéro déficit, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire budgétaire depuis 1974. 0% de déficit, ça veut dire en effet des efforts puissants. Ce que nous faisons, ce que le gouvernement met en place, ce que la stratégie en matière de finances publiques propose, c'est d'atteindre cela sans casse. Nous sommes sous le regard d'un certain nombre d'observateurs, nous sommes sous le regard d'un certain nombre d'investisseurs, nous sommes l'un des éléments moteurs de la construction européenne et de la zone euro. Notre responsabilité est grande, celle de nos partenaires est essentielle et nous devons parvenir à stabiliser la zone euro. Ça n'est pas facile, la situation exige beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise et beaucoup d'esprit de responsabilité sur le plan économique. Je suis confiant, mais nous avons besoin d'un soutien et d'une solidarité sans faille de tous les acteurs économiques pour accompagner ce dispositif. Les acteurs économiques, ce sont les banques à qui nous demandons des efforts, mais qui ne devront pas s'appuyer sur les efforts demandés pour réduire l'accès au crédit pour les particuliers ou pour le milieu économique. Nous serons vigilants. Le directeur général de la Caisse des dépôts le sait. Les acteurs économiques, ce sont les entreprises. Nous souhaitons aussi les protéger. Le médiateur du crédit est là pour être attentif à la situation de l'évolution des bassins industriels. Il y a des interrogations, il y a des incertitudes, il y aura des réponses publiques, mais il faudra veiller à tout cela. Et nous serons également au rendez-vous aux côtés des autres acteurs, collectivités territoriales, qui devront porter une part de l'effort, évidemment, d'économie, mais continuer d'investir pour soutenir l'activité économique locale, et d'autres acteurs qui devront, évidemment, nous accompagner. Tout ce qui est fait, pour conclure sur cette partie-là, et je serai à votre disposition pour répondre à vos questions, tout cet effort-là ne vise pas simplement à satisfaire les besoins de telle ou telle agence de notation. On n'est pas là pour avoir une bonne note. Cette note, elle est importante, parce qu'elle permet de financer nos politiques avec un coût de crédit plus faible. Au passage, je précise qu'on est dans un monde tellement volatile et tellement turbulent qu'il y a même des rumeurs de marché venues, une petite information en blanc d'une agence de notation qui aurait dit qu'il allait dégrader la note française. Et dans la demi-heure qui suit, la même agence de notation non seulement a démenti et a confirmé la stabilité de la note française, mais naturellement, ça a des conséquences, ça interpelle, ça interroge. J'ai saisi, il y a une demi-heure, le régulateur pour lui demander de regarder précisément les causes et les conséquences sur les marchés de ce type d'information. On ne laissera rien passer, on ne négligera aucun message, nous serons attentifs à tout et nous ferons respecter les éléments de la régulation nécessaire pour éviter justement de se laisser entraîner sur un toboggan que nous ne maîtriserions plus. Nous maîtrisons, mais nous sommes attentifs. Et donc, pour conclure, ce n'est pas uniquement pour garder une bonne note, c'est pour garder notre souveraineté. Trop dépendre, avec un niveau de dette trop élevé, d'investisseurs extérieurs, c'est perdre sa souveraineté. Tout ce qui est mis en œuvre vise à conserver, à restaurer, à maintenir, à préserver notre souveraineté de choix. La question n'est donc pas uniquement budgétaire, elle n'est pas uniquement fiscale, elle n'est pas exclusivement économique, elle est fondamentalement politique, et ce sont donc des choix politiques qui nous ont amenés à prendre ces décisions. Voilà, cher Patrick Artus, je me suis un peu éloigné de l'ordre du jour, mais il me semble que l'actualité devant une telle assistance justifiait pleinement et parfaitement de vous donner les éléments d'information sur lesquels nous travaillons. Merci de votre compréhension, vous n'êtes pas obligé de quitter la salle comme tout le monde, et je vous remercie et je reste encore un peu avec vous pour quelques instants.
Donc nous avons une contrainte supplémentaire, c'est que nous savons que nous devons faire les nouvelles politiques industrielles sans argent. Donc mes petits camarades autour de la table sont encore plus en difficulté qu'avant. Merci Monsieur le Ministre, c'était très gentil de venir nous résumer ces dernières semaines très compliquées à suivre. Et vraiment j'arrêterai les débats à temps pour qu'on puisse vous poser au moins quelques questions tout à l'heure que vous repreniez le train.